Chapitre 22. Quand la natomobile arrive devant la maison, c'est déjà la fin de l'après-midi. Le soleil luit faiblement à travers les nuages, l'air est imprégné d'une odeur d'herbe mouillée. Tiédissante. J'ai passé toute la journée à la naissance. On perd la notion du temps. Cora a dû faire toutes les courses aujourd'hui. J'étais exemptée de toute corvée. Je monte l'escalier, en levant péniblement les pieds d'une marche à l'autre, cramponnée à la rampe. J'ai l'impression d'avoir veillé des jours entiers et d'avoir couru vite. J'ai mal à la poitrine. Mes muscles sont pris de crampes comme s'ils manquaient de sucre. Pour une fois, la solitude est la bienvenue. Je m'étends sur le lit. Je voudrais me reposer, m'endormir, mais je suis à la fois trop fatiguée et trop agitée. Mes yeux refusent de se fermer. Je regarde au plafond. Je suis des yeux le feuillage de la couronne. Aujourd'hui, elle me fait penser à un chapeau. Un de ces chapeaux à large bord que portaient les femmes à une certaine époque, dans les temps anciens. Des chapeaux semblables à d'énormes halos, festonnés de fruits et de fleurs, avec des plumes d'oiseaux exotiques. Des chapeaux comme une idée du paradis, flottant au-dessus de leur tête. Une pensée solidifiée. Dans un instant, la couronne va commencer à se colorer et je me mettrai à voir des choses. Voilà le degré de fatigue où j'en suis. Comme lorsqu'on avait conduit toute la nuit jusqu'à l'aube, pour une raison ou une autre, ça n'a aucune importance pour l'instant, chacun gardant l'autre éveillé par des histoires, à se relayer au volant, et qu'au moment où le soleil commençait à se lever, on voyait des choses se dessiner au bord de son champ de vision. Des animaux pourpres, dans les buissons sur les côtés de la route. Des silhouettes d'hommes qui disparaissaient quand on les regardait en face. Je suis trop fatiguée pour continuer cette histoire. Je suis trop fatiguée pour penser à l'endroit où je suis. Voici une autre histoire, meilleure. C'est le récit de ce qui est arrivé à Moira. J'en connais moi-même une partie, et je tiens l'autre d'Alma, qui l'avait entendue de Dolores, à qui Janine l'avait raconté. Janine la tenait de tante Lydia. Il peut y avoir des alliances, même dans ce genre d'endroit, même dans pareilles circonstances. C'est quelque chose sur quoi on peut compter. Il y aura toujours des alliances sous une forme ou une autre. Tante Lydia avait appelé Janine dans son bureau. « Béni soit le fruit, Janine !» a dû dire tante Lydia, sans lever les yeux de son bureau où elle écrivait quelque chose. Car à chaque règle, il existe toujours une exception. Cela aussi, on peut en être sûr. Les tantes sont autorisées à lire et à écrire. « Que le Seigneur ouvre !» aura répondu Janine, d'une voix atone, sa voix transparente, sa voix de blanc d'œuf cru. « Je crois pouvoir vous faire confiance, Janine !» a dû dire tante Lydia, en levant enfin les yeux de sa page et en fixant Janine de son regard particulier, à travers ses lunettes. Un regard qui arrivait à être menaçant et suppliant tout à la fois. « Aidez-moi !» disait ce regard. « Nous sommes toutes dans le même bain. »« Vous êtes une fille digne de confiance !» a-t-elle poursuivi, « à la différence de certaines. » Elle croyait que toutes les pleurnicheries et repentirs de Janine voulaient dire quelque chose. Elle croyait que Janine avait été matée, que c'était une véritable croyante. Mais en ce temps-là, Janine était comme un chiot qui a reçu trop de coups de pied, venant de trop de gens au hasard. Elle se serait roulée par terre pour n'importe qui, aurait dit n'importe quoi, juste pour un instant d'approbation. Alors, Janine a dû dire « Je l'espère, tante Lydia. J'espère être devenue digne de votre confiance. » Ou quelque chose d'analogue. « Janine, a dit tante Lydia, il s'est passé quelque chose de terrible. » Janine regardait le plancher. De quoi qu'il pût s'agir, elle savait qu'elle n'emporterait pas le blâme. Elle était irréprochable. Mais à quoi cela lui avait-il servi par le passé, d'être irréprochable? Alors elle se sentait quand même coupable et sur le point d'être punie. « Êtes-vous au courant, Janine ?» a demandé doucement tante Lydia. « Non, tante Lydia, » a dit Janine. Elle savait qu'à ce moment-là, Il fallait lever son visage, regarder Tante Lydia droit dans les yeux. Au bout d'un instant, elle y parvint. « Parce que si vous l'étiez, vous me décevriez beaucoup, » dit Tante Lydia. « Le Seigneur m'est témoin, » dit Jeannine dans un étalage de ferveur. Tante Lydia s'octroya l'une de ses pauses. Elle tripotait son stylo. « Moira n'est plus des nôtres, » dit-elle enfin. « Oh, » dit Jeannine. Elle était indifférente à cette nouvelle. Moira n'était pas de ses amis. « Est-elle morte ?» questionna-t-elle un instant plus tard. Alors, Tante Lydia lui a raconté l'histoire. Moira avait levé la main pour aller aux toilettes pendant les exercices. Elle était sortie. Tante Elisabeth était de service aux toilettes. Elle se tenait devant la porte, comme d'habitude. Moira est entrée. Un moment plus tard, elle a appelé Tante Elisabeth. La cuvette débordait. Tante Elisabeth pouvait-elle venir la réparer ? Il est vrai que les WC débordaient parfois. Des personnes anonymes y fourraient des paquets de papier hygiénique précisément pour obtenir ce résultat. Les tantes s'étaient ingéniées à trouver un moyen à toute épreuve pour éviter cela. Mais les crédits manquaient et elles n'avaient pas réussi à imaginer comment garder le papier hygiénique sous clé. Peut-être faudrait-il le placer sur une table à l'extérieur des toilettes et distribuer une ou plusieurs feuilles à chaque personne à l'entrée. Mais cela, c'était pour l'avenir. Il faut un moment pour corriger les failles dans tout ce qui est nouveau. Tante Elisabeth, sans soupçonner le danger, est entrée dans les toilettes. Tante Lydia dut reconnaître que c'était un peu irréfléchi de sa part. Et pourtant, elle y était allée pour réparer les WC à plusieurs occasions, sans subir de mésaventures. Moira n'avait pas menti. De l'eau ruisselait sur le sol, ainsi que plusieurs morceaux de matière fécale en désagrégation. Ce n'était pas agréable et Tante Elisabeth était contrariée. Moira s'est écartée poliment et Tante Elisabeth s'est précipitée dans le cubicule indiqué par Moira et s'est penchée sur le fond de la cuvette. Elle comptait soulever le couvercle de porcelaine et tripoter le mécanisme intérieur, flotteur et bonde. Elle avait les deux mains sur le couvercle lorsqu'elle a senti un objet dur et pointu, et peut-être métallique, lui piquer les côtes par derrière. « Ne bougez pas, » a dit Moira. « Sinon je l'enfonce jusqu'au bout. Je sais où. Je vous percerai le poumon. » Elles ont découvert par la suite qu'elle avait démonté l'intérieur de l'un des WC et retiré le long levier effilé, la pièce qui est fixée à la poignée par un bout et à la chaîne par l'autre. Ce n'est pas trop difficile à faire si l'on sait s'y prendre. Et Moira avait des connaissances de mécanique. Elle réparait elle-même sa voiture en cas de panne mineure. Peu après ces événements, les toilettes furent équipées de chaînes pour maintenir les couvercles, et quand elles débordaient, il fallait longtemps pour les ouvrir. Cela nous a valu plusieurs inondations. « Tante Elisabeth ne pouvait pas voir ce qui lui piquait le dos, » dit Tante Lydia. « C'est une femme courageuse. »« Oh oui, » fit Jeannine. « Mais pas téméraire, » acheva Tante Lydia en fronçant légèrement les sourcils. Jeannine s'était montrée trop enthousiaste, ce qui est parfois une autre façon de nier. « Elle a fait ce que Moira disait, » poursuivit Tante Lydia. Moira s'est emparée de son aiguillon de bétail et de son sifflet, qu'elle l'a obligée à décrocher de sa ceinture. Puis elle lui a fait dégringoler l'escalier jusqu'au sous-sol. Elles étaient au premier étage, donc il n'y avait que deux volets d'escalier à négocier. Les classes étaient en cours, si bien qu'il n'y avait personne dans les couloirs. Elles ont vu une autre tante. Mais elle était à l'autre bout du couloir et ne regardait pas de leur côté à ce moment-là. Tante Elisabeth aurait pu crier, mais elle savait que Moira ferait ce qu'elle avait dit. Moira avait mauvaise réputation. « Oh oui, » fit Jeannine. Moira a entraîné Tante Elisabeth au long du corridor des vestiaires vides et lui a fait dépasser la porte du gymnase et pénétrer dans la chaufferie. Elle a dit à Tante Elisabeth de retirer tous ses vêtements. « Oh !» fit Jeannine faiblement, comme pour protester contre ce sacrilège. Et Moira a ôté ses propres habits et a revêtu ceux de Tante Elisabeth, qui ne lui allaient pas tout à fait, mais suffisamment bien. Elle n'a pas été trop cruelle envers tante Élisabeth. Elle lui a permis de mettre sa robe rouge. Elle a déchiré le voile en lanière, elle a ficelé tante Élisabeth avec et l'a attachée derrière la chaudière. Elle lui a fourré un bout de tissu dans la bouche et l'a maintenue en place avec une autre bandelette. Elle lui a noué une bandelette autour du cou et lui a attaché les pieds avec l'autre extrémité, par derrière. « C'est une femme rusée et dangereuse, » dit tante Lydia. Jeanine demanda « Puis-je m'asseoir ?» comme si tout cela avait été trop pour elle. Elle avait enfin quelque chose à échanger, au moins contre un ticket. « Oui, Jeanine, » dit tante Lydia, surprise, mais consciente qu'elle ne pouvait lui refuser cela maintenant. Elle avait besoin de l'attention de Jeanine, de sa coopération. Elle a désigné une chaise dans le coin. Jeanine l'a approchée. « Je pourrais vous tuer, vous savez, » a dit Moira, quand tante Élisabeth fut solidement arrimée hors de vue, derrière la chaudière. « Je pourrais vous faire une si vilaine blessure que vous ne vous sentiriez plus jamais bien dans votre corps. Je pourrais vous descendre avec ceci, ou vous le fourrer dans l'œil. Souvenez-vous que je ne l'ai pas fait, si jamais ça devait tourner mal. » Tante Lydia n'a rien répété de ce passage à Jeanine, mais je présume que Moira a dit quelque chose de semblable. De toute manière, elle n'a ni tué, ni mutilé tante Élisabeth, qui quelques jours plus tard, une fois remise de ses 7 heures passées derrière la chaudière, et probablement de l'interrogatoire, car la possibilité d'une collusion n'avait certainement pas été écartée par les tantes ni par personne, avait repris ses fonctions au centre. Moira s'était redressée, et avait regardé résolument devant elle. Elle avait rejeté les épaules en arrière, raidi les chines et pincé les lèvres. Ce n'était pas notre maintien habituel. D'ordinaire, nous marchions la tête baissée, les yeux fixés sur nos mains ou sur le sol. Moira ne ressemblait pas beaucoup à tante Élisabeth, même le visage encadré de sa guimpe brune. Mais sa démarche guindée avait apparemment suffi à convaincre les anges de garde, qui ne regardaient jamais aucune de nous de très près. Et peut-être encore moins les tentes. En effet, Moira avait passé la porte principale d'un pas ferme, avec l'air de quelqu'un qui sait où il va. On l'avait saluée, puis elle avait présenté le laissez-passer de tante Élisabeth, qu'il n'avait pas pris la peine de vérifier, car qui infligerait pareil affront à une tante? Et elle avait disparu. « Oh !» dit Jeanine. Comment savoir ce qu'elle ressentait? Peut-être avait-elle envie d'applaudir? Si c'était le cas, elle le cacha bien. « Eh bien, Jeanine, » dit tante Lydia, « voici ce que je vous demande de faire. » Jeanine ouvrit de grands yeux et s'efforça de paraître innocente et attentive. « Je veux que vous ouvriez vos oreilles. Peut-être l'une des autres était-elle complice. »« Oui, tante Lydia, » répondit Jeanine. « Et venez me faire un rapport, n'est-ce pas, mon petit, si vous entendez quelque chose. » « Oui, tante Lydia, » dit Jeanine. Elle savait qu'elle n'aurait plus à s'agenouiller devant la classe et à nous entendre toutes lui crier que c'était sa faute. Maintenant, ce serait quelqu'un d'autre, pendant un temps. Elle était provisoirement tirée d'affaire. Le fait qu'elle ait raconté à Dolorès le détail de cette entrevue dans le bureau de tante Lydia ne voulait rien dire. Cela ne signifiait pas qu'elle s'abstiendrait de témoigner contre nous, contre n'importe laquelle d'entre nous, si elle en avait l'occasion. Nous le savions. Dès lors, nous nous sommes mis à la traiter comme les gens traitaient les cul-de-jatte qui vendaient des crayons au coin des rues. Nous l'évitions quand nous le pouvions. Nous nous montrions charitables quand il n'y avait pas moyen de faire autrement. Elle représentait pour nous un danger, et nous le savions. Dolorès lui a probablement tapoté l'épaule en lui disant que c'était une chic fille de nous l'avoir raconté. Où cette conversation a-t-elle eu lieu? Dans le gymnase. Tandis que nous nous préparions à nous coucher. Dolorès avait le lit voisin de celui de Jeanine. Le récit s'est propagé parmi nous cette nuit-là, dans la demi-obscurité, à voix basse, d'un lit à l'autre. Moira était dehors, quelque part. Elle était en liberté, ou morte. Qu'allait-elle faire? L'idée de ce qu'elle ferait gonfla jusqu'à emplir la pièce. À tout moment, il risquait d'y avoir une explosion fracassante. Les vitres des fenêtres tomberaient à l'intérieur, les portes s'ouvriraient toutes seules. Moira avait maintenant un pouvoir. Elle avait été libérée. Elle s'était libérée. C'était maintenant une femme libre. Je crois que nous trouvions cela effrayant. Moira était comme un ascenseur ouvert sur les côtés. Elle nous donnait le vertige. Déjà nous perdions le goût de la liberté. Déjà nous trouvions ces murs rassurants. Dans les couches supérieures de l'atmosphère, nous nous serions défaites, volatilisées. Il n'y aurait pas eu de pression pour nous maintenir d'une seule pièce. Pourtant, Moira était notre fantasme. Nous l'étreignions contre nous. Elle était avec nous en secret, comme un rire étouffé. Elle était la lave sous la croûte de la vie quotidienne. À la lumière de Moira, les tentes étaient moins terrifiantes et plus absurdes. Leur pouvoir avait une faille. Elle pouvait se faire kidnapper dans les toilettes. C'est l'audace de la chose qui nous plaisait. Nous nous attendions d'un instant à l'autre à la voir ramener de force, comme cela lui était déjà arrivé. Nous ne parvenions pas à imaginer ce qu'il pourrait lui faire cette fois-ci. En tout cas, ce serait très méchant. Mais rien ne se passa. Moira ne réapparut pas. On ne l'a toujours pas revue.